ce roman.
C'est ce qu'il avait dit, oui. Mmh.
Mais le voyage n'est pas si simple. Pour ne pas vous spoiler, je ne vous détaillerai pas toutes les aventures qu'ils vont vivre. Le lecteur est amené à croiser la route de nombreux personnages qui ont tous une importance pour le récit. De la figure de mentor au personnage contraint de laisser derrière lui un être cher en passant par l'ami loyal, l'univers de ce roman est très bien construit, avec beaucoup de détails sur le langage, les populations, les lieux. Benjamin Kallam a su créer tout un monde, toute une réalité, de sorte que le lecteur soit complètement immergé dans son univers, que ce soit au travers des relations entre les personnages et leur complexité, que par des tensions politiques et les enjeux que cela engendre.
Tout ça sans prendre sa respiration, je suis assez fan.
L'histoire est entrecoupée par des lettres qu'envoie Baljig à Almal pour lui envoyer des nouvelles de Kessil, la ville d'où est parti Almal. Baljig est un bon ami d'Almag et cette correspondance à sens unique et cette correspondance se fait à sens unique car Almal vogue sur les eaux, décidément, nous permet une sorte de ligne rouge afin de ne pas perdre le fil. Pas comme moi, quoi. Les personnages sont nombreux et très bien travaillés. On s'y attache comme on s'attache à des amis, car nous avons tous à apprendre des uns des autres, qu'importe nos différences. Au début du livre, nous pouvons observer une carte afin de situer les lieux qui vont être évoqués. Et à la fin du livre, on peut y voir un lexique sur les lieux, les personnages, les populations, le vocabulaire et la langue des nains pour ceux qui auraient besoin de compléments. Mais attention, ces éléments peuvent spoiler le lecteur, comme l'indique l'auteur. Cette attention particulière pour aider le lecteur si besoin prouve que l'auteur a voulu créer un univers complexe, certes, mais le plus accessible possible également. Benjamin Kallam est un jeune auteur. Le Vent du Nord est son premier roman et sa plume se révèle entraînante. Une excellente lecture que je recommande avec plaisir. Il a été publié par une jeune maison d'édition locale également. Et je vous recommande chaudement de suivre leurs actualités qui pourraient bien vous mener à découvrir d'autres pépites. Et pour la suite,
T'as dit le nom de la maison d'édition là ?
Non, j'avais...
Les éditions de l'Embuscade.
Voilà.
C'était dit au début.
Ah, c'est pas sûr. Pour la suite, je vous laisse avec le groupe Alestorm et leur chanson
aussi, mais...
Magnetic North sur Radio G.
Un petit peu métal aussi. Et un petit peu pirate aussi, hein, si je me rappelle de la pochette de l'album.
Je fais encore une parenthèse et ce n'est pas pour le prix Ronnie Aîné. Benjamin Kallam donc, a été interviewé sur Radio G à la dernière émission, que vous pouvez retrouver dans nos podcasts. Et une interview a été faite pendant le salon.
C'est vrai.
Qui sortira courant du mois de juillet.
Interview
vidéo qui explique notamment sa manière de travailler. Donc voilà, vous avez la chronique de Karine, l'interview en direct et l'interview vidéo. Et vous avez tout pour connaître l'homme et son œuvre.
Chronique vidéo, il y en avait eu 6 ou 7 de fait par Imaginaire. Et
on va les sortir une par mois. Donc Benjamin Kallam en juillet, Valérie Cluzel en août et les autres après.
Ok, ça marche. Allez, Hellstorm sur le 101.5.
Fall beyond the ice and snow, the voyage carries. sun rose to the sky. Trapped forever in the sea of ice, this is the place where we will die.
Tempête de houblon à consommer à modération, bien sûr.
Oui.
Ah voilà, qu'est-ce qu'ils font là ? Ah, ils font de la pub pour leur prochain album. Je crois que c'est un peu raté, parce que je crois que c'est un morceau de 2015. Hein. Mais voilà, sur, il me semble qu'il y avait, c'était un bateau de pirates sur la pochette de cet album de Hailstorm. Hailstorm qu'on a pu voir au Hellfest aussi, il y a, bah, alors, eux, c'était il y a 10 jours, quelque chose comme ça. Bon, le concert est revisible sur Arte Live Web pour ceux qui n'y étaient pas. Ouais. Et donc, on va parler de notre journée jeu de rôle pirate qui se déroulera à la Chaumière du Boulet Rêve samedi prochain.
Ça n'a aucun rapport avec le prix Roniéné, mais certaines des nouvelles qui sont éditées dans les anthologies imaginaires présentes pour le Dice Hard sont, de, sont en lice pour le prix Roniéné. N'hésitez pas à aller voter.
Ah, ok. C'est une pub parlante ce soir à Pierre-Marie. Je ne sais pas combien il paye le prix Roniéné, à mon avis, mais bon, ça va. Et donc, journée jeu de rôle. Alors, on avait déjà fait une. C'était assez confidentiel l'année dernière, qu'on avait fait à la chapelle Saint-Lazare. D'ailleurs, l'événement a changé de nom, puisque nous ne sommes plus à la chapelle Saint-Lazare. Ce sera donc au showroom, on peut dire, de la Chaumière du Bout des Rêves, sur le site de La2R à Avrier. Ouais. Et donc, à partir de 14h, vous pourrez jouer à des jeux de rôle. Il y a environ une quinzaine de tables qui sont proposées maintenant sur la journée. Donc il y a des tables après-midi, mais il y a des tables aussi qui ça recommencera vers 20h30, 21h. On vous conseille de vous inscrire sur le site, c'est le dicehardconvention.fr.
Si vous êtes sûr de la table sur laquelle vous voulez jouer, ouais. Après toutes les tables sont, pour peu qu'il y ait des places disponibles, les tables sont ouvertes, vous pouvez vous présenter. Ouais. Par contre, il y a déjà des tables qui sont pleines.
On a invité deux professionnels du jeu de rôle, Arnaud Cuidé, donc que vous connaissez peut-être si vous suivez Imaginaire. D'ailleurs, il est, j'ai regardé, il a écrit dans 8 anthologies Imaginaire quand même, Arnaud.
Mais sinon, et il a c'est sorti que... deux univers de jeux de rôle. C'est aussi pour ça qu'il a invité.
Au moins
deux. Il a participé à beaucoup d'autres, mais là, il vient faire jouer son maître à l'aventure.
Voilà, donc en fait, c'est avec Arnaud qu'on a choisi le thème pirate. À la base, on pensait plutôt à Faust Commando, mais finalement, ça sortira plus tard. Donc là, il va venir faire la promotion donc, de Metal Adventures dans une nouvelle version. Elle a été remaniée récemment.
Version 1.5.
Donc, jeu de rôle de pirate space opéra.
De flibustier,
ah,
exactement.
Okay. Et puis, notre autre... Alors, donc, Arnaud, il aura deux parties de Metal Adventures, une dans l'après-midi à 14h30, puis une le soir vers 21h. Et pareil pour notre autre invité, qui est Jean-Marie Noël, qui est quelqu'un qui est beaucoup connu parce qu'il a travaillé dans Casus Belli. Mm-hmm. C'est lui qui a dessiné le logo, alors d'une version de Casus Belli. Il a été maquettiste, en fait, pour ce célèbre journal de jeux de rôle français. Et lui, on va dire, son œuvre, c'est La Élite, qui est toute une ville, plutôt dans un univers de medieval fantasy, mais là, il viendra faire jouer du Capitaine Vaudou, qui était un jeu de rôle de pirate français assez ancien, qui a été remanié, en fait, ressorti par Casus Belli, enfin maintenant les éditions Black Book, assez récemment, et Jean-Marie a travaillé, il a écrit des scénarios, il a fait la maquette du bouquin. Et donc même si vous venez pas d'ailleurs à ces tables, les deux auteurs seront en dédicace. Est-ce qu'on aura aussi un espace dédicace exposant où vous pourrez retrouver l'association Imaginaire, mais aussi l'éditeur Banquise et Comète, que vous connaissez aussi si vous nous suivez, qui réédite plutôt des textes anciens. Mais ils ont beaucoup de textes sur les flibustiers, la nautique, tout ça. Et puis, sinon, on aura des illustrateurs, donc des gens qui ont travaillé, qui travaillent dans le jeu de rôle, comme Rakam Leroux de Nantes, par exemple. Ronald Bousseau, qui nous a fait notre belle affiche, que vous avez, j'espère, vue sur les réseaux ou en ville. On aura aussi un dessinateur de bande dessinée pour enfants, qui s'appelle
Montard, voilà, si je dis pas de bêtises,
qui vient pour sa BD Chaboum. Voilà. On aura aussi Le Gribouilloire, que vous connaissez peut-être,
qui fait du dessin satirique, humoristique et ça décape, on va dire ça comme ça,
et qui possède un salon de thé aussi
qui s'appelle Le Gribouilloire,
voilà, sur la place Imbach. Qui j'oublie, on aura aussi Mathieu Sédas, hein, qu'on connaît bien, Imaginaire.
Non, ce qui est important de noter, c'est que c'est un événement dédié au jeu de rôle, mais en fait, le showroom de l'Art Désir, c'est un lieu immense et qui va être transformé en village. Et donc, il y a plusieurs tentes dedans, et notamment, puisque la Chaumière du Bout des Rêves est un magasin de jeux de rôle grandeur nature, mais aussi de jeux de société. Vous pourriez trouver donc soit des accessoires de jeux de rôle, si jamais vous connaissez un petit peu le principe du grandeur nature, et vous équiper, ou alors le découvrir, mais surtout, il y a des jeux de société disponibles pour des essais, pour des achats. En fait, l'idée, c'est vraiment que ça soit quand même un festival dédié aux arts ludiques, en très grand, mais on fait venir des spécialistes du jeu de rôle puisque c'est l'élément central.
Et l'originalité, c'est que ça se déroulera un peu dans le décor, donc on aura plutôt une déco pirate, hein, qui d'ailleurs ils ont fait beaucoup de travaux à la deuxième, et là ça va être un petit peu la découverte aussi.
C'est un événement familial quand même, puisqu'il y a des tables de jeux de rôle qui sont ouvertes pour de très jeunes âges.
Petit pirate à partir de 6 ans, ouais.
C'est ça, donc vous pouvez arriver, laisser votre enfant partir faire vos courses et le récupérer 3 heures plus tard, ça pose pas de problème.
On s'en occupe. Je vois aussi qu'on aura des exposants, on aura un artisan du cuir et un artisan costume qui s'appelle Horrifique. Donc en fait, la programmation, c'est encore étoffée. Ah oui, c'est vrai, tu le connais. Ok, peut-être que tu en portes sur toi,
non,
Fabien,
non,
t'as des trucs en cuir là.
Elle était en G-Geekfest d'ailleurs.
Ah ouais, ok. Voilà, bon ben sinon c'est gratuit, hein. Donc
entrée gratuite.
Voilà, et il y aura aussi de la restauration sur place pour ceux qui veulent. C'est accessible par le bus 3 aussi, je peux préciser ça. Ouais.
Et il y a le tram qui passe pas loin non plus.
Ah d'accord, ok. Ouais. Bon, allez, on retourne à l'exclu, l'album de Flavien, dont on va écouter un extrait sur le 101.5, et puis après on va t'interviewer. On s'écoute le morceau, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de recevoir des textos là. Cinta Felusi, c'est ça?
Oui, ça signifie romance éphémère.
Ok, on s'écoute ça dans Imaginaire sur le 100.5, Flavien, puis après on t'interview.
Mimamel, Antia Navapolda, Veyusure, Ikarizos, Standing still or silent, Vea Bertariana. Essay Tumbo, Ureme Miniamet, Ni Dom White.
Thank you. amir will ma on miena. It will e amir on wa. Avi qui vi carne sa regna lea.
Un extrait du futur album de Flavien dans Imaginaire sur le 101.5. Parle-nous de ta... Ça fait longtemps que tu fais de la musique.
Non, mais c'est assez récent sur l'échelle d'une vie. C'est quand même assez minuscule. Non, ça fait depuis 3-4 ans, on va dire. Hein.
Depuis essayer d'en faire quel âge chose, la question, c'est t'as commencé quel âge.
Quel âge tu me donnes?
Au moins 50 ans.
Ah. Non, j'en ai 25 et j'ai commencé vraiment à 22.
D'accord. Mais t'avais jamais touché un instrument de musique avant?
Si, en fait, j'ai commencé à prendre des cours de chant à 18 ans, pareil pour la guitare, mais en fait, de 18 à 22, j'ai pas fait grand-chose à part apprendre la rythmique et chanter juste à peu près, on va dire. Et vraiment, de 22 jusqu'à aujourd'hui, j'ai perfectionné mon art, on va dire.
D'accord.
Mon apprentissage. Moi, je suis encore en apprentissage, mais bon, je peux déjà en faire quelque chose.
Et là, t'es dans un chant folk, alors? C'est assez particulier.
En fait, il y a plusieurs inspirations. Il y a un côté un peu métal. Je ne sais pas si vous étiez là en G-Geekfest.
Oui, ouais.
Bah, sur la chanson Apocalypse, il y avait des voix saturées et assez destroy, comme on dit, utilisées dans le métal. Sur le refrain, là, on a entendu, c'est inspiré des chants lapons, donc avec des onomatopées qui finissent souvent en yol, en loy. Etc, etc. Donc ça, en fait, c'est mon prof de chant qui m'avait appris une chanson qui venait du Nord. Et j'ai décidé de m'en servir, de mélanger ça avec Elfique, et ça marche. Ça donne un côté assez rebondissant.
Et alors, pourquoi ce choix de l'Elfique, avant tout?
Parce que ça me ressemble, déjà. Et puis, c'est un univers que j'ai découvert quand j'étais petit avec l'adaptation de Peter Jackson aussi au cinéma. Ensuite j'ai lu les livres et je me suis dit bon bah c'est un univers que j'adore. Enfin ça représente ce qu'on a en Europe et en France dans l'univers médiéval mélangé avec d'autres choses dans le monde. Et c'est ça quelque part qui a construit mon imaginaire. Et voilà. C'est
ouais, parce qu'en fait, ton univers ne se limite pas à cet album.
Non, non, non.
T'écris aussi des textes qui vont à côté.
Oui, oui. Bah, déjà, les textes français, parce que les textes en elfique ne tombent pas comme ça dans un camion, ils viennent forcément de quelque chose. Donc, j'ai écrit les textes français, ensuite, je les traduis. Et les textes français, par contre, viennent de ma vie, de ce que je vis, les histoires d'amour, les. Quand j'étais à Saint-Malo et que j'ai réussi à vivre de ma musique pendant un mois, comme ça, en jouant dans la rue, juste en guitare-voix, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable.
Enfin, d'accord.
Ça donne une espèce de liberté et d'émotion comme ça, d'être fait pour ces choses-là. Et ça, je l'ai retranscrit dans le texte Indil Malta, d'ailleurs, ça parle de ça, la version française. C'est un personnage qui trouve sa liberté émotionnelle et spirituelle, mais qui devient... heureux et qui n'a plus besoin de personne en fait pour subvenir à ses besoins primaires. Ça c'est le texte d'Indil Malta et le reste après c'est inventé ou c'est pioché dans le coin. Apocalypse typiquement ça vient de la tapisserie du château.
On va l'écouter tout à l'heure.
Et ça vient aussi de la réalité où je voulais dénoncer le réchauffement climatique avec la Terre qui commence sérieusement à nous brûler la peau de plus en plus.
D'accord, donc t'es pas coincé en fait dans les royaumes
Non, non, non.
De Tolkien, quoi.
En fait, c'est juste... c'est le langage que j'aime beaucoup.
Ok.
Et l'image des elfes véhiculée par Tolkien, aussi, quelque part, physiquement, on m'a dit que je ressemblais plusieurs fois à un elfe, donc je me suis dit, bon, j'essaie de pousser le personnage au maximum.
Ok.
Ça fera une bonne histoire.
Alors, le premier clip d'Indil Malta, d'ailleurs, ça avait été tourné dans un château du coin.
C'était tourné au château de la Haute-Guerche. C'est à... C'est dans le Layon. C'est un petit château privé qui est quand même très très endommagé. Presque personne ne le connaît finalement. Et on est tombé dessus par hasard et la dame, qui est une artiste d'ailleurs, et qui fait de la sculpture et qui organise des ateliers d'artistes, nous a laissé tourner dans le château. Et voilà. Enfin, sous condition effectivement qu'on se serve du clip et que. Et ça met en valeur son monument et qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec, et ce qui est normal, parce que les monuments historiques, il faut les respecter.
Ouais, mais c'est plutôt réussi. Et quand tu dis nous, en fait, tu as pas mal de figurants en costume d'époque dans ce clip.
Et bah, là, ce sont mes collègues de la MHE d'Angers, Arts Martiaux Historiques Européens.
Comment tu dis ?
Arts Martiaux Historiques Européens.
Ouais.
Donc, abrégé, en abréviation, ça donne AMHE.
D'accord.
Bah, c'est mes collègues qui étaient à Angers Geek Fest aussi, ouais. Les types en armure qui se tapaient dessus. Bah, c'était eux qui ont tourné dans le clip. On a aussi le club de Béor d'Angers, l'ordre du Sinople. Et voilà, on a mélangé nos compétences de soldats pour tourner ce clip.
Est-ce que ça fait référence à un événement historique particulier ?
Non, pas spécialement, hormis le drapeau de l'Anjou qu'on peut voir dans l'écran, ouais. dans la vidéo. Mais autrement, non, c'est un petit scénario qu'on a écrit comme ça. Parce que je voulais mettre des gens en armure qui aiment bien la bagarre. Je trouvais ça original et j'avais pas vu ça dans un autre clip de musicien avant, donc je me suis dit, faut le faire. Okay.
Et j'ai vu que sur les réseaux que tu avais rencontré Luc Arbogast, comme
Arbogast,
ça.
Arbogast, oui.
Ouais. Ça a été une grande influence pour toi, ce monsieur qui a remis un peu peut-être cette musique mode.
En fait, c'est un des éléments déclencheurs, si on peut dire ça comme ça. C'est que j'ai découvert Luc, je devais avoir 19-20 ans, quand il avait fait son concert à la balade du roi René devant le château d'Angers. Ouais. Et en fait, j'ai adoré ce qu'il a fait. Et après, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir comment il a construit sa carrière, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, avec qui il travaille. Donc là, j'ai trouvé le compositeur, M. Christophe Voisin-Boivinet, et l'ingénieur du son, Adrien Thor, et les musiciens avec lesquels il a travaillé. Et récemment, là, quand je cherchais des coéquipiers pour construire mon univers et ce que je voulais raconter en musique, j'ai cherché sur YouTube et je suis tombé sur Skald aussi, groupe viking français. Et en regardant la description, je me suis aperçu que c'était ces mêmes personnes. Donc Christophe Voisin-Boivinet, le compositeur, Adrien Thor, l'ingénieur du son, les musiciens, certains étaient identiques.
D'accord.
Et à partir de là, je les ai contactés, on a travaillé ensemble sur cet album. Et du coup, Luc Arbogast, en fait, est la personne qui m'a fait aimer ce genre de musique. Ça, je le remercie parce qu'il a quand même rendu populaire des musiques qui seraient un petit peu passées sous le tapis, qu'on n'entendrait pas forcément comme ça. Et oui, du coup, c'est une grande influence. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer à Angers aussi, d'avoir discuté avec lui, d'avoir passé un peu de temps avec lui. C'est vraiment... ça m'a fait plaisir.
Ok. Est-ce que, du coup, il y a des instruments traditionnels sur ton album ?
Oui.
Des instruments anciens
Il y a un nickel harpa. Je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Non, pas du tout.
Ah, c'est joué par Alyosha Reignard, et quand il jouait ça au studio, j'étais vraiment transporté par cet instrument. C'était assez dingue.
Ça ressemble à quoi?
Je vais faire une description, je vais me faire taper sur les doigts, mais il faut donner une description aux gens qui ne connaissent pas trop. C'est à peu près la longueur d'un violon.
Ouais.
Un corps similaire à un violon, si on veut. Sauf qu'en fait, au lieu de jouer avec au lieu de faire des accords avec les doigts, il va y avoir un petit clavier avec des touches en bois.
Ah, c'est comme une roue.
La vielle à roue.
Il y a le même principe de clavier, on va dire.
D'accord.
Et le joueur de nickel harpa joue avec son archet comme ça. Et ça fait vraiment une très belle sonorité, ça c'est hallucinant. Ensuite, on a Marty Ilmar Wibo qui nous a fait des instruments sortis de nulle part.
Ah oui, il les invente.
Oui, carrément. Il a même des trompes marines, cette espèce de grand tube en fer utilisé au Moyen-Âge par les bonnes sœurs, il me semble. Ça, c'est encore une longue histoire. Ça fait un bruit assourdissant qu'on peut entendre sur Apocalypse. Ensuite, il nous a fait quoi aussi, Marty? Les tambours chamaniques, les percussions. Sur le champ du fer, il a fait un solo avec un tas de ferraille qu'on a mis sur un coussin. Il y avait des clés de voiture, une équerre du roi Merlin... toutes sortes d'objets divers en acier. Il s'est servi aussi d'ossement sur la chanson Terra Oyola. On peut les entendre si on tend un petit peu l'oreille.
Il faut connaître.
C'était une mâchoire d'âne sur laquelle il passait un bâton. Et ça donnait un peu de texture, c'était pas mal.
Il y a Ailung qui est célèbre en ce moment, que j'ai encore raté, ou Hellfest d'ailleurs, qui joue pas mal avec des os. Hein. Je sais pas si c'est juste un truc de scène ou si c'est des vrais.
Ça se fait un peu, les inventions d'instruments.
Ouais. Est-ce que tu te sens proche de cette scène, je sais pas comment on appelle ça, néo-pagan folk, là, qu'on voit un peu dans le métal en ce moment,
oui.
qu'on compte pas mal de succès
Moi j'aime bien ce genre de musique de toute façon, les Carbogast, Scald, Wardruna.
Ouais, qui était aussi en tête d'affiche du Hellfest, là, Wardruna, la semaine dernière.
C'est les mêmes. Les mêmes valeurs, les mêmes styles, enfin, si on peut dire ça comme ça, mais oui, c'est le genre de musique que j'adore. Et par contre, ce qui est curieux, c'est que c'est souvent associé à la communauté qui aime le métal. C'est un peu spécifique.
Ouais, je sais pas.
Enfin, moi, je verrais ça comme un style plus, beaucoup plus large, en fait, que en spécifique métal.
Hein. On va dire qu'il tourne pas mal, en fait, dans les festivals et dans les
industries
métal.
Cinématographiques, ça aide notamment au développement et à la démocratisation de ce type de musique. Il y a eu Kaamelott qui est sorti, qui utilise beaucoup. Le percussionniste de Scald est aussi le percussionniste de Alexandre Astier, lorsqu'il a fait Kaamelott. Enfin, il y a pas mal d'interactions entre la musique de métal et la musique filmographique, puisque l'ambiance sonore d'un film donne beaucoup de relief à une scène. Donc c'est normal que ce type de musique très, on va dire, très archaïque, à défaut d'autres termes, soit très utilisé, soit très démocratisé par les films, puisque même des gens qui ne sont pas proches du métal et n'apprécient pas ce genre musical sont aussi imprégnés par le cinéma.
Et puis il y a tout ce qui gravite autour de la culture pop aussi. Enfin, il y a beaucoup de métalleux qui adorent la culture pop, enfin le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Et moi, je le vois sur mon projet. Énormément de personnes qui écoutent ma musique aiment le métal. Pourtant, ma musique, ça n'a rien à voir avec du métal.
Il n'y a pas de guitare saturée dans l'album.
Et c'est ça, en fait, que je trouve.
Le petit rift.
C'est ça que je trouve assez hallucinant, c'est de toucher ces gens-là, alors que ce n'est pas vraiment ce qu'ils vont écouter, ce qu'ils auraient écouté normalement.
Peut-être ce qu'ils écoutent pour se reposer.
Il y a une inspiration aussi qui plaît. Parce que moi, j'écoute justement de la musique un peu plus brute d'habitude, mais j'aime bien aussi ce genre de musique un peu plus calme.
Puis il y a le point commun aussi avec le métal, c'est que ce sont des musiques qui sont techniquement recherchées. Je veux dire, dans le métal, outre les guitares saturées, il y a une recherche de la partition, d'arriver à trouver la bonne note au bon endroit pour appuyer tel autre instrument, tout ça. Et c'est la même chose avec tout. Alors effectivement, on n'est pas sur les mêmes octaves, mais on est quand même sur une certaine recherche technique.
Il y a tout le travail d'arrangement qui a été fait par le compositeur, ça c'est sûr, et par les musiciens aussi dans leur recherche de propositions artistiques. Et on a aussi Geoffrey Darrow, ce que je n'ai pas mentionné, mais c'est le musicien qui reste. Ouais. Geoffrey Darrow qui nous a fait les harpes.
Ok. Bon, on s'écoute un autre extrait de l'album, donc le morceau Apocalypse, donc qui fait référence à...
Non, il est après.
Ah si, non, mais je t'inquiète pas, je ne vais pas oublier Karim Birouka. Morceau Apocalypse, donc, qui fait vraiment référence à la tapisserie à Angers.
Voilà, c'est un mélange du... surtout Cavalier Squelette qu'on voit sur la tapisserie à Angers. Mélangé au problème du réchauffement climatique, et ça donne ceci.
Ok, on s'écoute ça tout de suite sur le 100.5, un extrait de l'album de Flavien.
Winter kai to ma in ma no ma to me in ta ni en re me ara moni anasta amayata ea en wale
folk là déjà le choix de Pierre-Marie.
Ouais mais c'est beaucoup plus punk.
Oui ça.
C'est tout ce que je demandais. Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté Romain ou qui n'auraient pas reconnu, il s'agissait de Ludwig 88.
Alors non en fait là c'était Karim Berouka en solo.
En solo.
Ouais, parce
que je croyais que même si c'était en solo, il avait gardé le nom de Ludwig 88.
Bah, je sais pas non là. Non bon, c'est Karim Berouka. 10 scènes tirées du club des punks contre l'apocalypse zombie.
Voilà. Karim Berouka a ressorti son livre chez ActuSF qui était le club punk contre l'apocalypse zombie et pour cette réédition. Collector, il a scié un CD, donc tout seul. Même si Ludwig 88 l'avait accompagné sur ses premiers écrits. Et pourquoi est-ce que je vous passe ça? Bah parce que le livre dont je vais vous parler, c'est Karim Berouka aussi.
Le nouveau.
Le nouveau, exactement. Et puis surtout, le quatrième de la collection graphique de chez ActuSF. Avant de vous parler du bouquin, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le nom du lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles?
Non.
Il en a un?
Bah non, exactement.
Ah.
Lewis Carroll ne l'a pas nommé. En même temps, c'est un lapin qui va donner un nom à un lapin. Un lapin, c'est fait pour être mangé.
Mais c'est ce que Alice cherche à faire pendant tous les romans.
Elle lui court après pour pouvoir le bouffer. Ouais, c'est du développement durable, je suis désolé. Petit jeu de mots. Non, personne, non. Tant pis. Donc, Carrie Beruca sort un livre qui se passe avant Alice au Pays des Merveilles et sur lequel on va suivre les aventures de Pampan. Pampan.
Le lapin de Bambi.
Exactement.
Il était trop pour moi, ce livre.
Bon, alors, c'est déjà une sorte de trope. J'aime beaucoup ce mot en ce moment puisque ça me fait penser à Tropique, mais ça n'a rien à voir. On va donc suivre l'histoire d'un lapin après l'histoire de Alice au Pays des Merveilles, mais qui se passe aussi avant Alice au Pays des Merveilles. Oui, je sais, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave, parce que ce livre, c'est un livre punk.
C'est Chantal Goya qu'on aurait dû passer, en fait.
Pampan, sous la coulée douce, voulait se taper une bonne sieste en écoutant du Chopin. Chanter, hein, pas jouer, parce que faut pas déconner. Mm-hmm. Du Chopin, ça doit être chanté, je vois pas comment, mais admettons. Et pendant qu'il est en train de faire sa sieste, il se fait réveiller par une morue qui l'insulte de tous les noms. Une morue, une blondasse, avec un beau chapeau et une belle rampe en taffetas. Alors il lui dit, cette connasse, elle m'insulte. Je lui maravais sa race. Donc elle lui court après. Cette dame-là, gentille demoiselle dans la fleur de l'âge, plonge dans les racines d'un beau chêne. Pampan aussi. Et tombe au pays des merveilles. Alors, de merveilles, ça n'en a que le nom, puisque Karim s'est attaché au sens premier de merveille, à savoir en dehors de toute raison. Mmh. Tout ce qui s'y passe n'a aucun sens.
Aïe, aïe, aïe. Ça fait combien de pages?
Ça fait pas très longtemps. On est à une centaine de pages.
C'est une collection graphique.
C'est une collection graphique. Il y a 123 pages.
C'est une novella, en fait.
Et c'est écrit gros. Les titres, les sous-titres et le corps du texte est écrit gros pour les bigleux ou les punks ou les bourrés. Et ça va souvent ensemble. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la cocaïne pour tout comprendre. Ça peut aider, je ne dis pas. Le bon côté de ce livre-là, c'est que cette année, ces 10 dernières années, voire même quasiment de toute ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un utiliser aussi bien la langue française sous tous ses styles. Ça a été un vrai coup de cœur littéraire, c'est juste dommage que ça soit au service de cette histoire. Non, je déconne, Karim, je suis amoureux de ton histoire, qui n'a aucun sens. Et c'est ça qui est cool. Vous lisez un chapitre, vous lisez la suite, le chapitre suivant, et il n'y a pas de transition.
Merde.
Il y a juste des téléportations, c'est ça qui est assez fun. Par contre, il y a un lien logique, un petit fil rouge. Il y a plusieurs fils rouges, mais il y en a un beaucoup plus rouge foncé que tous les autres, qui va vous tenir sur l'ensemble des chapitres, qui est la patte de Karim Beruca, à savoir une critique sociale, une critique sociétale, une critique climatique, une critique consumériste. On y retrouve vraiment son côté punk qu'il avait développé dans l'ensemble de ses bouquins, que ça soit Féoui des guillotines, le club punk contre l'apocalypse zombie, celle qui n'avait pas peur de Cthulhu, ou quand la fantaisie a niqué l'humanité. Tout ça, toutes ces critiques-là, il les a mis dedans. Et en fait, c'est là où je remercie beaucoup Zariel, c'est que le côté graphique de ce livre-là fait que Karim Beruca a dû condenser toutes ces idées. Et on est sur un texte qui est assez percutant, aidé par des dessins de Zariel. Et je pense que Zariel, il devait être extra quand il l'a dessiné, parce que le graphisme qu'il y a à l'intérieur est extraordinaire et n'a pas plus de sens que le texte. Non, non, c'est vraiment un chef-d'œuvre, ce bouquin-là. En plus d'avoir des couleurs criardes qui va égayer n'importe quelle bibliothèque. Moi, je suis un fan inconditionnel. Et donc, on va retrouver dedans à peu près tous les personnages d'Alice au Pays des Merveilles, totalement transformés, puisqu'il n'y a pas le chat de Cheshire, mais il y a le sphinx de Cheshire qui doit poser des questions et qui n'arrive pas à les poser. Mais ça, c'est lisez le texte et vous comprendrez pourquoi. Vous avez la Reine des Neiges qui est là, plutôt que la Reine de Cœur, faut pas déconner. Non, il y a quand même pas mal de beaux clins d'œil à la fois à la culture pop actuelle et au livre de Lewis Carroll, qui reste quand même, vous le retrouvez quasiment à toutes les pages, vous le sentez. Les animaux fantastiques, la scène du thé avec le chapelier fou, vous avez tous les gros moments d'Alice au Pays des Merveilles, que ce soit le bouquin ou le Disney, vous les avez dedans. Mais comme ce qu'il fait d'habitude, deux niveaux de lecture. Le premier niveau, Pampan vit des aventures, et il n'a qu'une seule envie, c'est de se barrer, parce que le pays des merveilles, il n'en peut plus. Vraiment, il n'en peut plus. Il se demande un peu pourquoi il est là, et pourquoi est-ce qu'il a eu envie de se venger de cette blondasse. Et puis le deuxième niveau de lecture, c'est le lapin, c'est du Pratchett. Quoi. Le lapin, en tant que tel, n'a aucun intérêt. Le but, c'est de voir ces scènes. Chaque chapitre est une scène différente, et chaque scène est une critique différente. Et quand je dis critique, c'est pas « Ouais, là-bas, c'est quoi des connards ?» Non, il y a vraiment une... on pose à plat une société, un aspect de la société, on en tire les dérives, on en tire les côtés positifs, et on se dit, bah, il y a des côtés positifs, mais au final, les côtés positifs ont été tellement pervertis qu'il n'y a plus vraiment de côtés positifs. Regardez où est-ce qu'on est là-dedans. Mention spéciale avec Le Diable dans l'Enfer, qui est juste un commercial en assurance.
T'as terminé ?
J'ai terminé. Franchement, okay. Un chef-d'œuvre. Ah bah, je vais quand même. Trouvable dans n'importe quelle bibliothèque, au prix mirobolant de 20€. N'importe quelle bibliothèque, je maintiens. Et si jamais vous le voulez dans votre bibliothèque à vous, passez en librairie, 20€ du coup. Ça fait bien suite. Donc, les deux premiers livres du graphique ActuSF, on avait eu un texte de Jean-Laurent Del Socorro et de Alan Moore qui avait été illustré par, j'ai perdu le premier nom, et par Cindy Canevet. J'oublie à chaque fois celui qui fait Jean-Laurent Del Socorro.
Ah oui, oui.
Et puis, le troisième qui était sorti, c'était un texte de Fitzgerald que vous connaissez tous, qui est L'incroyable histoire de Benjamin Burton. Mmh. Et j'ai aussi oublié le graphiste, honte à moi, je vais me faire défoncer ce soir en rentrant chez moi.
Et Zariel, c'est celui qui avait fait un livre accordéon, là.
Qui avait fait un livre accordéon sur les zombies.
Comment t'appelles ça ?
Exactement. En fait, c'est pas un pop-up, puisque c'est une seule page recto verso, tout en long. Donc vous le dépliez et vous avez toute l'histoire sans arrêt. C'est pas de la ligne claire, puisque chacune des vignettes, il n'y a pas de séparation. C'est le même personnage que vous retrouvez inlassablement dans toutes les parties du dépliant et vous suivez en fait son évolution. Assez ingénieux, graphiquement assez intéressant. Ça se lit en 30 secondes, il vous faut juste une paire de yeux et pas besoin de réfléchir. Et c'est lui aussi qui fait l'ensemble des couvertures récentes d'ActuSF. Il était à Imaginaire en novembre dernier et là, vous l'avez devant les yeux.
On va pas avoir le temps d'écouter un morceau que j'avais prévu de Gar Marna. On écoutera un morceau de Flavien dans quelques minutes pour terminer cette émission. L'agenda.
Pour l'agenda, il nous vous reste 2 jours pour voter au prix Rony Aîné pour la meilleure nouvelle et le meilleur roman édité en 2021. N'hésitez pas. Le prix sera remis lors de la Convention nationale de science-fiction qui se passera cet été, le 28 et le 29 août, à Bergerac, sur inscription.
Bon, demain soir, mercredi, à partir de 20h30 à Brissac, y a une soirée quiz bang bang. Organisé par Julien Védren et Toubs Bébé, que vous connaissez peut-être parce que c'est eux qui alternent le mardi soir avec nous, puisque c'est l'émission
Calibre 58.
Voilà, sur le 101.5. Et en fait, ils proposent un quiz. Donc, alors, dans leur émission, des fois, Toubs joue des morceaux, des thèmes au saxophone et il faut que les gens téléphonent pour gagner des cadeaux. Donc, je pense qu'ils vont refaire un petit peu la même chose, c'est-à-dire proposer au public de découvrir ou redécouvrir des films policiers et leur musique qui vont être revisités donc, au saxophone. Je pense que ouais, il y aura plein de trucs à gagner, des romans policiers et puis des DVD de films noirs. Donc c'est exactement Brissac Loire-Aubance, hein, c'est comme ça. Je sais pas où, je me rappelle plus où c'est exactement. Bon, bref, facile à retrouver. Et puis deuxième chose, samedi prochain, hein, donc notre journée jeu de rôle, le Dice Hard. On vous conseille d'aller sur le site diceharconvention.fr pour réserver, mais vous pouvez aussi vous pointer les mains dans les poches. Alors dans les poches, peut-être plutôt dans les, comment on appelle ça, un pantalon à l'époque des pirates.
La ceinture.
Pouvez venir costumé. Hein, y aura pas mal de monde, je pense. Voilà. Et donc on va terminer avec un dernier extrait de l'album de Flavien. Ce sera le morceau Antulès. Comment tu prononces ça?
T'es sûr de la prononciation?
Faut pas trop déformer quand même, ça peut vite déraper. C'est Antulès.
Antulès.
Tu veux dire retour.
À l'italienne, quoi.
Moi, je préfère Antulès. Bon. Hein,
je sais pas.
C'est la dernière chanson de l'album, d'ailleurs.
Donc, l'album, on redit, qui s'appelle
Alcara.
Ouais, et donc il va sortir au mois de septembre.
En fait, là, il est déjà disponible à l'achat sur ma boutique perso.
Mais c'est précommande.
Non, je les ai reçus. D'ailleurs, j'en ai un pour vous là dans mon sac.
Bon, bah, c'est gentil.
Mais ils sont disponibles
à l'achat. Donc t'as le CD là.
Favoritisme.
Sur ma boutique internet.
Il faut écouter.
Mais il n'y en a que 100 en vente. Et les autres seront disponibles le 2 septembre à la FNAC, dans les centres culturel, chez vos disquaires indépendants. Voilà.
Tiens, alors parle-nous de cette pochette là.
Oui.
C'est la feuille de Arwen.
Il y a un air de ça. En fait, la photo à la base, elle est prise en plein jour. Au niveau couleur, elle ressemble pas du tout à ça. Hein. C'est vraiment une photo lambda et j'ai retravaillé toutes les couleurs pour avoir justement cet effet de.
Alors, ce qui est bien, c'est que nous sommes en train de parler de, du graphisme d'une pochette de CD à la radio, et je pense que c'est le moment.
On peut aussi parler de clip, parce que donc c'est ton clip Indie de Malta qui a un peu lancé tout le truc. Tu me disais d'ailleurs qu'il était sélectionné dans des festivals étrangers, là.
Oui, oui. En fait, j'ai trouvé un très bon moyen de le promouvoir. C'est de l'inscrire dans les festivals de courts et de longs métrages où souvent il y a des catégories pour les clips vidéo.
Ah ouais, d'accord.
Et donc je l'ai présenté au Marina del Rey Festival à Los Angeles. Il a été sélectionné, donc il a été diffusé le 23, la semaine dernière, là-bas, au cinéma. Donc je trouve ça assez génial.
Oui, oui. Est-ce que tu as prévu un autre clip là? Est-ce qu'il y a un autre morceau parmi les 8 de l'album qui va...
Oui, alors après c'est juste une affaire de... malheureusement d'argent. Parce que rien n'est gratuit, mais artistiquement tout est prévu.
C'est prévu.
C'est juste une question. Voilà, si tout le monde achète mes CD, logiquement, je devrais m'en sortir.
Bon, on va terminer avec donc End to Lessee, dernier titre de ton album à sortir en septembre. Enfin, déjà dispo sur ta boutique. Alors, justement, sur les réseaux, t'es où? Comment on te retrouve?
Faut juste, si vous marquez Flavien Elf sur Google, vous tombez sur mon Facebook, Instagram, YouTube. Et à partir de là, vous pouvez aller sur Spotify. C'est important, ça aussi. Et sur ma boutique internet.
Ok, est-ce que tu as des concerts de prévus prochainement annoncés?
Non, les concerts, d'ailleurs j'en cherche, mais vu que je suis au début du projet, c'est assez...
Peut-être que chez nos auditeurs, les gens qui seront intéressés. Allez, on termine là-dessus. Merci Flavien.
Merci à vous.
Rendez-vous dans 2 semaines pour Imaginaire sur le 101.5.
Non, rendez-vous ce week-end.
Mais oui, au Dice Hard. À Avril, à la deuxième.
Bonne soirée.
N'oubliez pas le rôle niéné.
Et en plus, je me trompe. C'est pas du tout ça.
Voilà. Ma feo.